Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est demain dans la cour des Invalides que se tiendra la cérémonie d'hommage national aux 13 militaires de la force Barkhane tués accidentellement lundi dernier au Mali au cours d'une opération de combat anti-djihadiste. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron. Les noms de ces 13 militaires viendront s'ajouter à ceux du nouveau monument inauguré à Paris le 11 novembre par le président Macron dans le parc André Citroën qui rend hommage aux soldats morts en OPEX, c'est-à-dire en opération extérieure. Peu avant ce tragique accident, nous avions rencontré le père Jean-Yves Ducourneau, aumônier militaire à l'occasion de la sortie de son livre « Le café du Padré » publié aux éditions Salvator et préfacé par l'archevêque émérite de Dakar, le cardinal Sarr. À l'heure de la retraite, le père Jean-Yves Ducourneau, bientôt 60 ans, ce livre fait le bilan de ses 23 années de vie sous les drapeaux comme aumônier militaire qui l'ont conduit à boire beaucoup de café en France et aussi sur des terrains extérieurs, en Afrique, dans les Balkans, au Liban, en Afghanistan, dans cette dernière OPEX, l'explosion d'une mine près de son blindé, lui ayant abîmé une oreille, il n'a pu partir au Mali. Le padré, c'est le nom donné à l'aumônier militaire. En France, les aumôniers militaires sont les représentants des cultes au sein de l'armée. Ils sont donc catholiques, protestants, israélites ou musulmans. Première question posée, celle de la présence du padré, ce soldat sans armes, sur les terrains d'intervention. Est-ce qu'il reste à l'arrière ?
Ah non, je ne me suis jamais cantonné à rester dans ma sacristie. C'est ce que je dis dans les écrits, notamment. Je dis le padré va au contact. C'est un terme un peu militaire, hein, comme le militaire va au contact. Eh bien, le padré aussi. Donc, il n'est dans sa sacristie que pour rendre grâce à Dieu. Et quand il y a des offices, effectivement, mais il rend grâce à Dieu aussi au milieu de l'accompagnement quotidien de ses soldats, de jour comme de nuit, de pluie comme de froid, comme de soleil, de poussière aussi. Il connaît le froid, la faim, comme les soldats. Il est d'ailleurs habillé en militaire, donc il honore cet uniforme aussi, comme les soldats le font, même si son arme est une arme de lumière, il n'a pas d'arme de fer, mais il accompagne, il vit avec les soldats. Il est pour les soldats, même s'il n'est pas tout à fait comme un soldat.
Lorsque vous êtes en opération spéciale dans des zones extrêmement dangereuses, elles le sont d'ailleurs souvent, la question de la mort évidemment se pose et entraîne des échanges très particuliers avec les soldats, père Jean-Yves Ducourneau.
Oui, parce qu'en fait, on n'est plus protégé par rien. En France, on a des mutuelles, on a des assurances, on a on a une société de consommation qui nous vend le bonheur à des prix pas forcément dérisoires, donc à des prix très chers. Et on a l'impression, voilà, on se construit son univers, sa protection en opération extérieure, qu'on soit au Mali, en Afghanistan ou ailleurs. On est nu face à tout ça. En face, il y a quelqu'un qui a une arme. Nous aussi, on a une arme. Enfin, moi, j'en ai pas, mais les soldats en ont une. On sait ce qu'on fait avec une arme. Et le soldat apprend, dans ses opérations, à pouvoir donner sa vie. On lui apprend avant, évidemment, parce qu'on ne va pas sur le terrain, on ne la voit pas si la personne n'est pas prête. Hein, on n'est pas... Voilà. Donc, effectivement, dans ce monde où, effectivement, on prône le gagner sa vie, le soldat, on lui apprend à donner sa vie. Donc, dans une société, c'est pour ça qu'il y a un temps de formation. Et il y a un temps de formation non seulement militaire, non seulement physique, mais aussi psychologique. C'est comme un jeune qui ne sait pas où il va, il voit la lumière, il entre, il fait beau, il veut être militaire. Ok, mais quel est le sens que tu veux donner à ta vie en choisissant cette vie-là ? Voilà. Tu es capable, voilà, et donc on va t'apprendre à donner du sens à ta propre vie. Donc effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas le sens de sa propre vie de donner sa vie. Voilà. Donc il va falloir qu'il fasse un apprentissage de lui-même, apprendre à se connaître. Est-il capable, effectivement, d'aller jusqu'au bout de cet engagement ? Parce que s'il n'est pas capable, il met en danger sa vie, celle des autres, et celle des personnes qu'il protège. Parce qu'on ne va pas là-bas pour faire la guerre. On va là-bas pour protéger des personnes qui sont plus faibles et qui n'ont pas les moyens de se protéger face au terrorisme. C'est ça, d'abord, ce qu'on fait. Les opérations, la première opération au Mali, par exemple, c'est le président malien qui a demandé à la France d'envoyer des soldats. On n'y est pas allé comme ça, en disant, tiens, coucou, c'est nous, on va... Non. On nous a demandé, on nous demande. Donc, on y va. Voilà. Et on expose nos soldats pour une cause qui est bien plus grande qu'eux-mêmes. Et donc, voilà, il faut donc qu'ils apprennent ça. Et ça, c'est pour ça. Mais, et personne n'est à l'abri. C'est pas parce qu'on est officier, sous-officier, militaire du rang ou même padré qu'on est à l'abri.
Donc ça entraîne des échanges d'un niveau spirituel à ce moment-là, qui se situe au niveau spirituel.
Oui. Ça entraîne des échanges d'un point de vue humain aussi, hein, parce que bon, les militaires, ils ont une famille, etc. Bon, ils ont quand même une histoire. Leur vie n'est pas sur le sable du Mali ou dans les montagnes afghanes. Elle est à la maison, leur vie. Hein. Donc tout ça, ils se construisent avec cela. Donc effectivement, ça pose des questions, et les discussions qu'on a, effectivement, c'est des discussions qui vont en profondeur de l'être humain, parce que là, l'être humain est nu face à la réalité de la mort. Et tout être humain, qui est, quel que soit le grade, la plus grande des difficultés, c'est, bien sûr, il y a celui qui exécute la mission, mais il y a celui qui ordonne la mission. Et qui sait qu'il risque d'envoyer à la mort quelques-uns de ses soldats. Donc là aussi, et c'est pour ça que le padré est conseiller spirituel du commandement, voilà, aussi, quelle que soit la pensée philosophique de ce commandement. Parce que justement, dans le commandement des opérations contre le terrorisme, il y a cette possibilité d'envoyer des gens à la mort. Et le padré fait partie de cela, il n'est pas protégé parce qu'il est padré. Donc ça oblige aussi la réflexion, la mienne. Est-ce que moi je suis aussi capable? Je vois des jeunes de 20 ans, 25 ans qui vont au contact au sens premier du terme. Hein, et moi, je fais quoi? Voilà. Donc est-ce que je m'enferme dans ma sacristie parce que j'ai peur? Ou est-ce que je vais avec eux?
Vous avez eu peur?
Oui, il y a des moments où j'ai eu peur, où on m'a dit « Padre, vous restez tranquille au fond du véhicule blindé. » Ok, j'obéis. « Padre, vous planquez. » Je me planque. Voilà, bien sûr, je suis un être humain comme voilà. J'ai des poussées d'adrénaline aussi au même moment lorsque j'entends des tirs, etc. Oui, bien sûr. Mais c'est ça la communion aussi. Je ne peux pas me dire non, je vais me protéger du danger parce que comme ça je serai plus apte à assumer le risque du danger pour les autres. Non, j'accompagne les soldats, enfin c'est ce que je faisais en Afghanistan, j'accompagne les soldats dans les patrouilles, etc. Quand il y a eu des patrouilles qui ont été blessées, je suis allé voir le capitaine, j'ai dit je pars avec ta section le lendemain, là où il y a eu des blessés, parce que j'ai dit bon voilà, je veux être là aussi, pas pour me mettre devant, pas pour, non, mais pour justement, parce que là il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des mots MAX, des mots qui font mal et qui obligent aussi à avoir un mot, le mot du padré pour remettre debout.
Discussions, elles ont lieu avant l'opération ou après l'opération?
Alors, elles ont lieu avant, parfois pendant et après aussi. Donc,
par exemple,
bon, mais il y a eu en Afghanistan, on a eu une opération où il y a eu une embuscade. Bon, heureusement, ça s'est mieux passé que l'embuscade dite d'Usbin.
C'est une embuscade où il y a eu effectivement plusieurs morts.
Hein. Voilà. Donc, alors les gamins sont arrivés, on est tous arrivés dans le lieu de vie qu'on avait construit. Et la parole a commencé à fuser dès le début. Alors effectivement, c'est mieux parce qu'en fait, le débriefing est nécessaire. Et là, c'est plus un diffusing qu'un débriefing, c'est-à-dire qu'on part tout de suite. Voilà. Il n'y a pas de délai entre l'événement et l'analyse de l'événement.
Voilà. Qu'est-ce que vous vous dites?
Alors bon, bah ça dépend avec les uns et les autres. Padre, j'ai vu les anges. Il y en a qui m'a dit, Padre, j'ai vu les anges aujourd'hui. Ah bon, mais j'espère que tu les as pas vus de trop près. Je dis parce que la preuve, tu sais, encore là. Oui. Bon, ils disent ça sous des traits un petit peu d'humour parce que c'est l'humour, ça permet d'évacuer aussi. Hein. Et je réponds aussi sous cette forme d'humour. Mais bon, il n'y a pas tellement d'humour quand même. Mais c'est nécessaire aussi d'entendre ces paroles et d'être là. Voilà. Donc c'est très variable. Il y en a un qui me dit, oh Padre, je crois qu'au retour, j'irai, au retour d'opération, je crois que j'irai à la messe. Parce que là, je lui dis, non. Tu ne vas pas au retour. Demain matin, je suis là. Hein, je reviens. Hein, voilà, à 6h, il y a la messe. Tu viens demain matin. Ce n'est pas la peine d'attendre. Hein, voilà, tu seras, hein, puisque je suis là, et on en discutera aussi. Prendre au vol la parole, voilà, je pense que c'est ça, ne pas remettre au lendemain, parce que l'accueil est toujours urgent. La parole, même comme ça, qui semble superficielle ou dérisoire, non, elle a du sens, parce que le gamin, il a vécu quelque chose de fort qu'il revivra certainement durant les 4 mois, mais le premier contact, il est violent psychologiquement,
Le premier, vous voulez dire le premier pour un jeune ou bien le premier dans une opération?
Le premier dans une opération. C'est-à-dire, on a notre vie en France, on s'entraîne, on a les terrains de manœuvre, etc. Bon, on a l'étude aussi des pays. Hein. Lorsqu'on part dans un pays, on a des études avant. On ne part pas comme ça. Hein. Donc, il y a une présentation des pays, une présentation de la politique, de la géopolitique, etc. Pour que les militaires sachent un peu où ils vont.
Dans des opérations que vous avez accompagnées, il y a eu des morts?
Oui, il y a eu des morts. Et bon, donc là, effectivement... La gestion de ce stress violent de la mort d'un frère d'armes doit être gérée dans les 3 jours qui suivent la mort. Pourquoi ? Parce que l'État nous demande de rendre le corps du défunt dans les 3 jours à la famille. Donc il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit rapide. Donc en fait, bon, dès que la personne est tuée, elle est amenée à l'hôpital militaire. Pour que le corps soit nettoyé, etc. Bon, après, il est posé dans un cercueil de zinc, et puis après, il repart, quand c'est possible, il repart sur le lieu, dans cette petite caserne improvisée que l'on monte en opération extérieure, pour qu'il y ait une cérémonie, pour qu'il y ait du cérémonial, parce que le cérémonial permet l'évacuation du stress, l'évacuation de la violence, ou du moins essayer de la canaliser.
Donc, cérémonial religieux ou pas religieux, ça dépend.
Oui, il y a le cérémonial religieux. Donc là, alors si la personne est catholique, évidemment les autres aumôniers sont associés. Hein, c'est pas un truc, on fait pas du gâteau, non.
Ça veut dire que par exemple, si la personne était musulmane. Hein.
Ah ben, si la personne est musulmane, il y a un aumônier musulman qui est à même de faire la prière nécessaire.
Et vous n'êtes pas loin à ce moment-là.
Je suis pas loin. Comme j'ai toujours eu l'accompagnement des autres culte pour ce genre de choses. Mais là, tout le monde est là autour du cercueil, et là, l'aumônier est seul face à cette violence qu'il a lui-même, parce qu'en fait, le gamin, je l'ai connu aussi, hein, j'ai marché avec lui, hier, on buvait une bière ensemble, et puis aujourd'hui, il n'est plus là. Donc, effectivement, il y a une espèce de violence aussi. Mais j'ai appris, par ma foi, à ne pas faire de cette violence le but, maintenant, de ma démarche. Donc en fait, je dois canaliser toute cette violence, prendre toute la violence qui est en face de moi, même si elle est indicible. Parce que le combat va continuer, il ne faut pas que ce soit une vengeance. Hein. Et donc à partir de là, effectivement, je dois donner des mots, je dois dire des mots pour apaiser le cœur de ceux qui souffrent, quitte à les faire pleurer. Parce que bien souvent, les militaires sont fiers dans leur uniforme, et autour du cercueil, tout le monde est au garde à vous, et personne. Et une fois, la première fois, c'était au bout de 2 jours d'Afghanistan, on a eu un capitaine qui est décédé, qui a sauté sur un engin explosif. Et c'était en plein février, faisait froid. Moi, je venais d'arriver, ça faisait à peine 8 jours que j'étais là, et avec le pasteur, on est arrivés tous les deux en même temps. Et donc, j'ai dit à ces jeunes qui étaient là, je dis, mais vous avez le droit de pleurer. Dieu a créé des larmes, parce que justement, c'est pas un déshonneur de pleurer. Bien sûr, à l'armée, on dit, l'armée honore ses morts, elle ne les pleure pas, mais c'est quand même un frère d'armes, c'est quand même une part de soi qui part. La fraternité d'armes, c'est ça, c'est une partie de soi-même qui tombe. On est frère ou pas? Quand on perd un frère, ben, ça fait mal. Donc, mais ma mission à moi, c'est dans cette fraternité d'armes qui passe par cette fraternité de larmes, c'est en faire une fraternité d'âme. C'est-à-dire, encore une fois, passer du terreux au céleste. Voilà. Et ça, c'est la vocation de l'aumônier militaire, et c'est dans sa difficulté aussi, parce qu'il n'en est pas moins homme, et il a aussi cette souffrance de la disparition de son frère d'âme.
Pourquoi vous aviez choisi d'être aumônier militaire, père Jean-Yves de Cournot?
Alors, est-ce que c'est moi qui ai choisi, ou est-ce que c'est l'aumônerie militaire qui m'a choisi? Je ne sais pas, les voies de Dieu sont souvent impénétrables, et comme je cite souvent pour moi le proverbe de Claudel, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Donc à partir de là, effectivement, lorsque je suis rentré dans la congrégation de la mission de Saint-Vincent-de-Paul, cette congrégation a toujours eu un contact privilégié avec l'armée depuis 1636, la bataille de Corbie qui est contre les Espagnols. Et donc le roi Louis XIII avait demandé à des prêtres de la congrégation de la mission de rejoindre ses troupes, et c'est ce que Saint Vincent de Paul avait fait à l'époque. Il en avait envoyé une bonne quinzaine, et de tout temps il y a eu des aumôniers militaires jusqu'à ce jour de la congrégation de la mission. Donc quand je suis rentré à la congrégation de la mission, étant ancien militaire de carrière, le supérieur m'a proposé lorsqu'il y a eu un appel de la part de Monseigneur Dubost, qui était ancien évêque aux armées, de m'envoyer aux armées, donc pour répondre favorablement à cet appel.
C'est ça, vous étiez militaire de carrière, et lorsque vous avez été prêtre, vous avez donc du coup naturellement glissé vers l'aumônerie militaire.
Alors naturellement, je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'avais une autre charge pastorale. J'étais aumônier de prison au départ, mais c'était des contrats aussi, avec les temps passés contrats. Donc c'était un contrat de 3 ans qui s'achevait, et donc du coup je me trouvais effectivement prêt à recevoir une nouvelle mission que l'Église m'a donnée à travers l'entrée dans l'aumônerie militaire.
Alors, 25 ans de carrière, vous allez, alors, comme on dit, raccrocher les habits au vestiaire, si on veut, en partie, en tous les cas. Est-ce que ça n'est pas difficile ? Parce que vivre les OPEX, il y a une forme quand même, pour un prêtre, d'adrénaline.
Ah ben comme un soldat, c'est-à-dire j'ai vécu une fraternité d'armes très 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 forte. Être militaire, ce n'est pas exercer un métier, comme prêtre d'ailleurs. Je ne suis pas militaire de 8h à midi et de 2h à 6h, et je ne suis pas prêtre non plus en ces heures-là. Donc en fait, les deux vocations se retrouvent, et alors évidemment, quand elles s'imbriquent, je ne quitte pas le sacerdoce, je quitte juste le treillis d'une manière effective. Mais je ne quitte pas d'une manière affective, c'est-à-dire que je suis toujours en réserve, donc je reste conseiller auprès du diocèse aux armées, donc bon, si le diocèse a besoin de moi, et je suis là, c'est ce qui est convenu avec l'évêque, et aussi je continue à aider, à remplacer si besoin est, voilà. Et j'exercerai aussi un certain ministère de présence auprès des anciens combattants, aussi.
Voilà. Oui, mais cette vie, justement, de fraternité, cette vie, voilà, ça va être dur, non ? Vous n'allez plus la voir, cette vie en communauté.
Alors, la vie, d'une manière, oui, militaire, je ne l'aurai plus directement, effectivement. Je ne me lèverai pas le matin en allant aux couleurs, et puis en passant de bataillon en bataillon et de compagnie en compagnie pour boire du café. Mais effectivement, je reste toujours en lien, et ma prière sera aussi le lien spirituel que j'entretiendrai avec ce milieu, même si ce lien ne sera plus physique.
Vous avez aimé cette vie ?
Oui, j'ai aimé cette vie, parce qu'en fait, la vie militaire, pour moi, elle m'a fait grandir, puisque j'étais, avant d'être aumônier militaire, j'étais sous-officier, et avant d'être sous-officier, j'étais enfant de troupe. Donc en fait, j'ai le béret vissé sur la tête depuis l'âge de 14 ans. Donc on est un peu façonné quand même.
Vous avez voulu écrire un nouveau livre, hein. Vous aimez écrire, manifestement, oui, oui. Père Jean-Yves Ducourneau. Le café du Padré, hein, c'est ce moment où l'aumônier militaire accueille un jeune qui toque à votre porte, et là, vous allez l'accueillir, vous allez l'écouter, et pourquoi pas l'accompagner si cet échange se prolonge.
Exact. J'ai appelé ce livre le Café du Padré, parce que les gens, c'est un bistrot. Non, je dis, c'est pas un bistrot, le Café du Padré. Quoique, c'est un lieu d'échange. Effectivement, le café, c'est un prétexte social pour rencontrer quelqu'un. Quand je pars, mais ce n'est pas uniquement moi qui accueille, mais je me laisse aussi accueillir par d'autres. Quand je vais dans les bataillons, dans les compagnies, Padré, vous voulez un café ? Donc, c'est plus qu'un bonjour. Ça veut dire que je suis capable de prendre 5 minutes avec le padré parce que j'ai peut-être besoin de lui dire quelque chose. J'ai besoin, voilà, peut-être pas directement là, mais à travers des mots simples. Mais voilà, ça permettra peut-être un accueil plus tard. Et pareil pour celui qui vient. Eh bien, voilà. Donc, je lui dis, tu veux un café ? On s'assoit et on discute. C'est un prétexte social, le café. Et effectivement, on trouve dans ce titre, ce que j'ai voulu dire à travers ce titre et ce livre, c'est qu'il y a une noblesse de l'accueil. L'accueil est nécessaire dans la vie du monde, il faut s'accueillir, et il faut aussi se laisser accueillir. Et pour moi, c'est très important. Celui qui accueille n'est pas supérieur à celui qui est accueilli, au contraire. Et donc, à partir de là, il ne fait pas montre de pouvoir sur lui, même si l'autre vient chercher quelque chose, même si l'autre vient quémander quelque chose, vient demander, vient chercher des explications, chercher un éclairage, etc. Il ne faut pas que celui qui accueille se sente supérieur à celui qui est accueilli. C'est pour ça que, bon, il a certes une autorité, mais ce que j'écris dans le livre, c'est que l'autorité, ce n'est pas le pouvoir.
En 25 ans, le profil des jeunes a nécessairement beaucoup changé, on peut le supposer. Hein, les jeunes qui viennent taper à la porte du padre et prendre un café avec lui.
Oui. Alors c'est le reflet de la société française. L'armée n'est pas en dehors de cette société. Donc les jeunes que nous accueillons, quel que soit le statut qu'ils vivent dans l'armée, hein, le statut de militaire du rang, le statut de sous-officier et le statut des officiers, ce sont les trois statuts militaires. Donc il y a des écoles pour les trois, suivant le niveau intellectuel, culturel, etc. de la personne, et suivant sa vocation aussi. Et à partir de là, effectivement, le reflet, on a ces jeunes de la société avec des familles recomposées, avec parfois les difficultés de... Certes, si la famille est recomposée, parfois l'enfant est décomposé. Donc il faut aussi qu'il se construise et se reconstruise parfois. Il y a aussi des jeunes des quartiers, des banlieues aussi. On a ces difficultés-là aussi parfois d'intégration. Après, on a aussi la mixité. Depuis une bonne trentaine d'années, l'armée s'est bien ouverte à la mixité. Et à partir de là, effectivement, l'accueil des filles peut poser aussi certaines difficultés, certains aménagements nécessaires. Voilà, tout cela, c'est l'armée étant le reflet de la société. Il est normal que toute la société s'y retrouve et elle s'y retrouve.
Alors, une société qui se déchristianise, donc manifestement dans les jeunes dont vous brossez le portrait, hein, de quelques-uns, on voit bien qu'un certain nombre d'entre eux, un bon nombre d'entre eux, n'ont pas eu vraiment d'éducation religieuse, hein, quelle qu'elle soit.
C'est ça. Donc effectivement, ils ne savent pas ce que c'est qu'un padre, ils ne savent pas ce que c'est qu'un aumônier, ils ne comprennent pas d'ailleurs parfois pourquoi il y a des aumôniers, quelle que soit la religion, hein, des aumôniers dans une institution d'État. Comment cela se fait-il? Alors effectivement, on explique, on fait un amphi au début de l'engagement de ces jeunes, qu'avec les aumôniers, l'aumônier protestant et l'aumônier musulman, l'aumônier israélite, il est en lien avec nous, mais bon, il se fait plus rare parce qu'il y a moins d'aumôniers israélites que d'autres cultes, donc en fait, mais ceci étant, on présente le tenant et les aboutissants des aumôneries dans la société française, et donc pourquoi on est là. Voilà. Et donc on explique effectivement que nous sommes à leur service, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des assistantes sociales, nous ne sommes pas des toubibs. On fait partie du cercle social, on est considéré comme dans ce cercle social de l'armée, et nous travaillons de concert avec effectivement les assistantes sociales, les toubibs, tout ce qui est aussi pour le bien-être de la personne. Mais avec une notion effectivement spirituelle. Nous ne sommes pas que des terreux, nous sommes appelés à nous élever vers le céleste. Donc ça, c'est notre mission.
Donc passeur de foi, donc ce mot revient effectivement souvent dans votre livre. En même temps, vous vous défendez de tout prosélytisme.
Oui, parce que le prosélytisme, c'est obliger l'autre à adhérer à sa conception de la foi ou n'importe quoi d'ailleurs, sans qu'il ait son libre arbitre. Mmh. Ça, c'est le prosélytisme. Non, nous sommes des hommes de proposition. Ouais. Mmh. Mais cette proposition, il faut qu'elle soit crédible. C'est-à-dire qu'elle n'est crédible que parce que l'aumônier, eh bien, il vit avec les soldats. Il est observé par les soldats. Et c'est vrai, j'en parle dans le livre. À un moment donné, un cadre vient me voir parce qu'il m'a regardé. Il m'a observé pendant quelques jours. Il a regardé si, finalement, la parole qu'il allait me donner allait être entendue, allait pouvoir être reçue par quelqu'un qui connaît le milieu et qui respecte ce milieu. Donc, effectivement, ça nous oblige à nous à être présents. Donc, les aumôniers, ils vont au contact, c'est ça. Donc c'est important. Moi je me base sur une phrase de l'évangile, Jésus qui marche, qui rattrape le groupe de pèlerins d'Emmaüs là, et puis qui leur dit en chemin, de quoi discutez-vous en chemin? Voilà. Donc Jésus sait très bien, mais pourtant il va au contact, il s'intéresse à ce que vivent les gens. Voilà. Et nous c'est pareil. Voilà. On s'intéresse à ce que vivent les uns et les autres parce qu'on y est déjà, nous aussi plongés. Donc si l'aumônier, quel que soit le culte, n'est là que pour avoir un salaire, une sécurité de l'emploi, etc., etc. Il se trompe. Nous n'avons pas un métier, nous avons une vocation.
Cela veut dire que vous pouvez recevoir un mari qui vous confie son infidélité et qui ne sait pas trop comment s'en sortir. Hein. C'est un des exemples du livre.
Oui, bah, c'est un des exemples. Il y en a eu d'autres. Dans ma thèse, ce sont les derniers exemples que j'ai eus. Donc, ça s'est passé à l'école de formation des sous-officiers de l'armée de terre. Donc, effectivement, c'est plus récent dans ma tête. Oui, il y a des tas de questions comme ça, mais il y en a eu d'autres dans ce style-là, effectivement. Des questions de recherche éthique, de recherche morale et aussi en lien avec la foi ou pas.
Et d'ailleurs, vous lui dites, écoute, moi, vous avez pratiqué avec lui le sacrement de réconciliation, hein, donc voilà, la confession, et vous lui dites, non, tu dis rien à ta femme.
Oui, évidemment. Alors, certains prêtres peuvent penser, non, tu ne vas pas jusqu'au bout de la vérité. Mm-hmm. Effectivement, mais il y a la loi et la miséricorde. Moi, j'essaie d'être, même si je sais ce que c'est que la loi, je sais à quoi elle sert, mais la miséricorde est quand même supérieure, parce que la miséricorde, c'est vraiment l'identité de Dieu. Dieu n'est pas loi, il est miséricorde. Dans la Bible, il est dit qu'il est miséricorde. Non pas comme un acte qu'il pose, mais miséricorde, c'est un état de vie. Voilà. Miséricorde, ça renvoie au mot hébreu qu'on a traduit par utérus. Donc ça va très loin. C'est-à-dire que c'est l'intérieur de Dieu, c'est la profondeur de Dieu. C'est plus que l'acte du pardon, c'est plus qu'un acte extérieur. Bien que le pardon soit un acte intérieur aussi. Et ça, pour moi, c'est remettre l'homme debout. Voilà. Alors effectivement, ce n'est pas 100% de la vérité. On n'est pas 100% saint non plus. Hein. Donc voilà. Et le mieux, c'est quoi ? C'est que cet homme puisse repartir sur ce chemin d'amour, et reconstruire ce chemin d'amour avec sa femme. Voilà, parce qu'elle n'est pas prête à entendre ça. C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est qu'est-ce qu'il vaut mieux, construire, reconstruire ou détruire ?
Ou déconstruire.
Ou déconstruire, voilà.
Le père Jean-Yves Ducournau, le récit de ses 23 années sous les drapeaux est raconté dans son livre « Le café du Padré », publié aux éditions Salvator. On quitte à présent le monde de l'armée pour celui de l'hôpital et plus particulièrement des urgences avec le docteur Bertrand Galichon, médecin urgentiste, responsable adjoint du service des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris, près de la gare du Nord. Le docteur Bertrand Galichon est le président du CMCF, le Centre des médecins catholiques français. Hasard des calendriers, alors que l'hôpital public en France est en pleine crise et particulièrement les services d'urgence, ce médecin engagé signe aux éditions Bayard un beau livre sur la spiritualité du soin.
Ce livre n'a pas comme objet premier de traiter de la crise des urgences, mais de regarder le soin à partir d'une expérience professionnelle qui se situe exclusivement aux urgences. Voilà, donc c'est le regard de l'autre, le regard du soin à partir de cette expérience professionnelle qui reste quand même assez particulière. Dans le soin, de prendre en charge des gens qui n'avaient pas prévu de venir aux urgences et des gens qui arrivent d'horizons éminemment différents pour des raisons complètement différentes.
Les urgences de Lariboisière par rapport à d'autres hôpitaux du centre de Paris ?
Alors, les urgences de Lariboisière présentent l'immense avantage qu'en une journée, vous faites le tour du monde. Voilà. Mis à part ça, c'est les plus grosses urgences intramuros qui reçoivent le plus grand nombre d'adultes. Nous faisons exclusivement de l'urgence adulte, pas de pédiatrie, pas de maternité. Donc on fait de la psychiatrie. Plus de 75% de la population que nous recevons ici est administrativement considérée comme précaire, donc qui bénéficie d'un minimal social. Le 25% restant, ce sont des gens qui sont correctement insérés ou bien qui sont complètement hors des radars. 80% des gens qui sont là ne portent pas de nom d'origine européenne. Donc, problème de culture, de langue, de représentation qui sont à l'origine de bien des difficultés, des contresens, des incompréhensions. Voilà un peu le tableau. Autre particularité des agences de la rive basée, c'est notre voisin qui est la gare du Nord. Alors, qui dit gare, en particulier la gare du Nord, c'est quand même la troisième plus grande gare du monde, n'est-ce pas? Qui dit gare dit population mobile, donc une population qui n'est pas obligatoirement du quartier. Voilà, donc ça, toutes ces particularités font que dans le concert des urgences d'Île-de-France, la Ribosière a une place un peu à part.
Alors, ça n'est pas neutre que vous vous retrouviez ici, aux urgences de la Ribosière. Est-ce que cela correspond à votre choix d'être médecin d'une part et au fait que vous soyez médecin et catholique? Je n'ai pas dit médecin catholique, hein, médecin et catholique.
Alors effectivement, on me pose toujours la question, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu as voulu venir ici? Parce qu'avant, j'étais dans un autre hôpital parisien.
Vous êtes depuis là, depuis combien de temps?
Là, je suis arrivé en 2004. Donc je suis là, je suis ici parce que en fait, les situations rencontrées sont éminemment, comment vous dire, pas déstabilisantes, mais questionnantes. Elles vous renvoient dans vos 22. Régulièrement, et c'est ça qui est intéressant. Et en plus du fait que je sois président du Centre catholique des médecins français, du CCMF, fait que trouver une cohérence entre ces deux engagements, parce que ce choix professionnel ici, je le vis comme un engagement, au même titre que le reste. Et donc il faut trouver, voilà, quelle est la synthèse entre les deux. Et donc, quels sont les tenants, les aboutissants du soin à l'heure actuelle, surtout ici?
Alors, l'esprit du soin, c'est un très beau titre, effectivement, publié chez Bayard. L'esprit du soin, bon, ça fait penser immédiatement à spiritualité et soin. Or, aux urgences, l'esprit du soin, pas facile à tenir, non? Puisque précisément, on est dans une situation d'urgence.
Alors, oui, c'est une réflexion qu'on me fait souvent, de dire, mais attends, aux urgences, t'as pas le temps de voir les gens, ils passent à toute vitesse, tu les reverras pas. C'est une erreur. C'est une erreur parce que, effectivement, le temps est court, mais le temps est très dense. Et il y a plein de choses qui passent sans être obligatoirement dites. Dans le livre, je raconte un certain nombre de scènes qui mettent justement en avant cette dimension du spirituel. Quand vous êtes allongé sur un brancard, vous êtes nu comme un verre, enfin, façon de parler.
Face à une blouse blanche. Hein.
Oui, face à une blouse blanche qui est habillée, qui est déguisée, masquée, une blouse blanche, qui veut rester impersonnelle, car très laïque et recevant tout le monde. Mais, de toutes les manières, le spirituel est toujours à fleur de brancard, à fleur de drap, à fleur de blouse, n'est-ce pas? C'est une dimension essentielle qu'il ne faut pas occulter. Et les patients et leurs familles reçoivent toujours très bien que cette question puisse être abordée. Voilà, Madame Bonnet est vieille dame, est accompagnée aux urgences par ses enfants, dans un état très critique. Poser la question aux enfants de savoir quels sont leurs désirs religieux, spirituels, à ce moment-là, alors que les conditions ne s'y prêtent absolument pas, ça a deux avantages. Ça permet de remettre le débat à son juste niveau, de toucher à l'essentiel, et de dire aux patients, à la famille, que voilà, le patient est pris en charge dans toute sa dimension. Moi, je pose la question de façon ouverte à toutes les familles. Il y a des familles qui sont absolument pas croyantes, non, c'est pas le sujet. Mais le fait qu'on leur a posé cette question, on décale un peu le débat, quoi. On le pose à sa juste humanité.
Alors là, vous décrivez une situation, docteur Bertrand Galichon, bon, où la personne, manifestement, va mourir. Il y a aussi la personne qui vient aux urgences, qui ne va pas mourir, qui est dans une situation, effectivement, on peut supposer grave. Et là, à ce moment-là, et c'est quand même une très grosse partie de votre livre, c'est même le message de votre livre, c'est l'attitude du soignant, de la blouse blanche, hein, ce qu'il y a derrière la blouse blanche, qui va être, selon vous, décisive. Et c'est bien au-delà du protocole que l'on va établir, du protocole de soins, c'est aussi vous, ce qui vous habite, ce qu'il y a en vous, qui va faire que ça va être un moment, effectivement, un moment extrêmement important, qui va changer si vous n'avez pas cette attitude-là.
Oui. Le médecin est dans sa blouse blanche, il est debout. D'accord ? Le patient est allongé, plus ou moins habillé. Donc il y a un rapport de force, déjà là, simplement physique, extrêmement fort. Et donc, ce qu'il faut absolument, c'est que je parle comme chrétien, considérer l'autre comme aussi aimable que moi aux yeux du Père. Alors, c'est parfois difficile, parce que devant toutes les gueules cassées, droguées, avinées, que l'on a ici, qu'on reçoit ici, c'est difficile de... Voilà.
De voir le visage du Christ, c'est ce que vous avez écrit dans le livre.
Oui. Alors, moi, soigner le visage du Christ, c'est bon, mais c'est pas mon truc. J'ai jamais vu le visage de Christ, je l'ai jamais entendu. Et puis je pense qu'il faut pas inverser les rôles. Je pense que c'est plutôt lui qui doit nous soigner que l'inverse. Par contre, prendre, m'ajuster à mon frère dans le Christ, c'est ça qui est pas important. Comme disent les enfants, ça calme, quoi. Ça, on est ajusté. Quand on considère que l'autre a autant d'importance que soi, eh ben on regarde pas les choses de la même manière. Il est plus chosifié, si vous voulez. Il est plus instrumentalisé.
Et vous, vous n'êtes plus dans la toute-puissance médicale, c'est cela ?
Et le médecin se trouve dans... Non, il n'est plus dans la toute-puissance médicale parce qu'il est reconnaissant la dimension spirituelle du patient. Il lui reconnaît sa liberté fondamentale. Considérer l'autre dans toute sa liberté, c'est accepter sa possibilité de refuser le soin que vous lui proposez. Et cette dimension-là lui permet de passer du statut de malade, plus ou moins subjugué par sa maladie, au statut du patient qui va intégrer, inscrire cet événement dans sa biographie.
Ce que vous définissez par l'esprit du soin... C'est assez curieux parce que c'est un renvoi au regard que le médecin a sur lui-même, sur son métier. Et qu'à partir du moment où effectivement son regard change, il va regarder sa situation, notamment aux urgences, à frais nouveaux.
Oui. Si vous voulez, ce dialogue qu'il y a avec le patient, avec l'équipe avec laquelle on travaille, vous remet en permanence en question. Donc vous êtes toujours obligé de vous repositionner, de voir exactement où vous en êtes. C'est comme un parcours spirituel. Hein. Quand je vais, ma foi, c'est un chemin, c'est pas un point d'arrivée, d'accord ? Je n'ai pas la foi, j'essaye de l'avoir. Je suis médecin, oui, j'ai un statut professionnel de médecin, mais le jour de ma retraite, le serai-je pleinement ? Peut-être pas.
Cette blouse blanche, elle vous dérange, cette blouse blanche. D'ailleurs, dès l'entrée du livre, vous parlez d'un rapport que vous avez eu un soir aux urgences avec un clochard, manifestement, qui vous envoie votre blouse blanche en pleine figure. Rappelez-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça vous a changé, manifestement ?
Ah oui, tout à fait. C'est l'histoire de M. H., comme je l'appelle dans le livre, qui est un... SDF, un grand exclu du quartier que nous connaissons, et il est accompagné cette nuit-là, il est 4h du matin, par une équipe de pompiers qui ont tous, ils sont tous verts, et ils amènent Monsieur H qui est sur son fauteuil roulant. Monsieur H est sans jambes, il est cul-de-jatte, et nous sommes en plein hiver, et il est nu, et il s'est complètement souillé. Il est complètement aviné, comme toutes les nuits où il vient. Et là, il me renvoie dans les 22 très sévèrement. Et avec ta blouse blanche, tu comprends rien à ce que je dis. Enlève-la et tu verras ce que je dis. Et tu accepteras de faire la piqûre que je te demande. Bon, on l'a répondu de façon tout à fait benoîtement. Mais monsieur A, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous, vous allez voir. Et donc, on a lavé Monsieur H, on a lavé le fauteuil de Monsieur H, et puis on a donné à dîner à Monsieur H. Monsieur H est endormi et Monsieur H est reparti. Voilà. Mais Monsieur H, ce jour-là, nous a nous a tous énormément déstabilisés par la violence et, in fine, la pertinence de ses propos. Oui, voilà.
En quoi il avait raison ?
Il avait raison, la suite nous le dira, c'est que quelques mois après, il est effectivement mort. Il est effectivement décédé suite aux complications de son alcoolisme. Mais la question que je me pose, que je me suis posée, je n'ai pas répondu à la question, c'est finalement le fait de vouloir soigner M. H, qui finalement n'avait pas du tout envie de vivre, est-ce qu'on ne soignait pas notre propre conscience de petits bourgeois installés ? Est-ce qu'on ne préservait pas l'institution hospitalière dans laquelle nous sommes ? Je me suis toujours posé la question de l'existence de l'acharnement thérapeutique social.
C'est quoi, social ?
Ben, cet homme est un grand SDF, il est sur un fauteuil, enfin bref. Et on s'acharne à vouloir le faire rentrer dans les clous. Et il ne veut pas. Est-ce qu'on peut parler d'acharnement thérapeutique ? Ou bien, on suit des grands exclus ici, ils fuguent. On les avait rentrés dans une unité d'hospitalisation du service, ils fuguent. Je pense qu'il faut l'accepter. Comme les addictologues acceptent les rechutes de leurs patients alcooliques ou autres. C'est quelque chose qu'il faut accepter, ça fait partie du parcours. On a pris en charge ici des grands exclus qui, à force de travail avec eux, on a pu retrouver un profil professionnel pour reconstituer une pseudo-retraite. Ces garçons, ils restent 3 mois, 4 mois au mieux dans la maison de retraite, et puis ils s'en vont, ils se cassent. Et mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas ? Ça pue le vieux, j'ai horreur de la télé. Qu'est-ce que tu veux que j'attende là-bas ? Je préfère aller retrouver les copains.
L'humilité, c'est un mot qui revient assez souvent dans votre livre, docteur Bertrand Guélichon.
Je crois que l'humilité, c'est une des qualités cardinales dans le soin. Il faut considérer que le corps, la personne que l'on soigne, ne nous appartient pas. L'humilité est la condition nécessaire pour pouvoir accepter la liberté de l'autre. C'est notre humilité devant donc la liberté de l'autre, les limites de notre savoir, parce qu'on n'est pas omniscient, et la limite d'accepter le mystère de l'autre, et son propre mystère à soi. Et je crois qu'il faut être très, très humble. C'est quand le médecin se prend pour tout puissant qu'il se plante et qu'il plante son patient. D'accord ? À mon avis, c'est la pointe ultime du principe de précaution.
Voilà. L'humilité.
L'humilité.
Est-ce que votre livre n'est pas, docteur Bertrand Guélichon, donc l'esprit du soin, un contrepoint, une réaction précisément à l'hypertechnologie de la médecine aujourd'hui, qui sauve, certes qui sauve, mais vous semblez pointer du doigt les conséquences de cette médecine très, très technique.
La médecine moderne occidentale a apporté un plus dans le soin apporté à tous, à la population, mais je crois que le plus important reste encore l'homme et son mystère, n'est-ce pas ? Et certes, il faut de la science, certes, il faut du savoir, mais il faut aussi d'avoir la connaissance, c'est-à-dire le fait de se frotter à l'autre.
Est-ce que cette médecine que vous pratiquez, où la spiritualité a une place permanente, est-ce qu'elle est comprise des jeunes déjà ? Des jeunes qui arrivent, qui ont passé des concours de médecine sous forme de QCM, etc. Donc une vision assez diffractée en fait. Hein. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que les jeunes comprennent cette dimension ? Ou est-ce que vous êtes une sorte de d'OVNI, quoi ?
Alors, les mauvais jours, je suis un OVNI. Et les autres jours, non. Il n'empêche que c'est une dimension que nos jeunes étudiants, nos jeunes médecins ont du mal à vivre ont du mal à exprimer. La dimension spirituelle de l'homme, la place du spirituel dans sa profession, c'est quelque chose qui arrive après, au bout de plusieurs années de pratique, de relation à l'autre, de frottement, de friction avec l'autre. Voilà. Donc quand on est jeune médecin, on est plutôt sur la technique, voilà. Quand on prend de la bouteille, on prend la distance par rapport à ça et on voit résurgir l'essentiel. Donc la dimension spirituelle, sans connotation religieuse, hein, on est bien d'accord, c'est la dimension spirituelle de l'homme, donc son humanité. Il y a quelques années, il y a 15-20 ans, quand vous disiez vous étiez catho, bon, t'es gentil, mais on sait ce que tu vas dire, donc tu te la fermes. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Tu es catho, alors tu en penses quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Combien de fois la nuit sur des histoires de limitation de traitement ou bien d'annonces faites à la famille, enfin, dans des situations très aiguës, on prend des décisions et les soignants qui sont en retour, les jeunes médecins, ils disent « Mais attends, mais tu es catho, tu as pris ces décisions, mais explique-quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. » Donc, ce genre d'interjection vous arrive dessus à brûle pour point. Et voilà. Quand on dit qu'on est catho à l'heure actuelle, il n'y a plus de raillerie, il n'y a pas d'indifférence. Ça interroge. Surtout quand on l'annonce de façon non prosélyte, n'est-ce pas? Voilà, ça interroge. Donc, je trouve que c'est déjà un début de témoignage que de le poser, de le dire. Voilà. Pas de façon ostentatoire, mais de le dire.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les jeunes médecins, précisément, aient cette approche humaniste aussi, pour contrebalancer la technique de la médecine qui sauve, mais aussi qui dessèche?
Oui, alors il y a effectivement... les jeunes médecins, les jeunes infirmiers sont correctement formés sur le plan technique. On peut critiquer la formation, mais voilà... Je pense que les années passant, ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant et qu'il faut quelque chose de plus dans leur formation. Donc, si vous voulez, ils ont une formation technique, mais pour soigner un humain, il faudrait qu'ils fassent leurs humanités. L'humanité à l'ancienne, n'est-ce pas?
C'est-à-dire les métiers littéraires, etc.
Une culture... des réflexions philosophiques, des réflexions théologiques éventuellement, indépendamment de la religion, pour pouvoir prendre en charge toute la dimension de l'homme qu'ils ont en charge. Et on le voit bien ici, dans le service, c'est tout à fait récent, le semestre dernier, parce que chaque semestre, il y a une nouvelle fournée d'internes. Ils nous ont demandé, mais on est dans un service, nous sommes dans un service où la dimension sociale est très forte. On ne nous en a jamais parlé. Et donc, on a inséré cette formation. Alors, c'est uniquement du social, n'est-ce pas? Mais ça permet d'aborder d'autres sujets, d'ouvrir d'autres dimensions.
Social, c'est-à-dire, par exemple?
C'est par exemple, mais le truc tout bête dont on parle en ce moment, c'est la violence faite aux femmes. Les problèmes de la grande précarité, le viol, c'est ces dimensions-là quoi, qui sont à prendre en compte. Et donc, c'est une certaine façon de les ouvrir sur autre chose que voilà, les indicateurs de telle ou telle maladie. Enfin, voilà.
Le docteur Bertrand Galichon, L'esprit du soin, son livre est publié chez Bayard. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous. La marche du monde.